Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique sur Radio Territoria.
Bonjour à vous si vous nous rejoignez, rebonjour si vous étiez déjà avec nous pour l'émission qui s'est tenue il y a une heure déjà maintenant, et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, un numéro que nous allons aujourd'hui consacrer cet après-midi à l'édition 2022 du prix national du génie écologique. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, d'ici 45 minutes, vous serez au point, vous saurez exactement de quoi on parle, et tout cela, eh bien, grâce à toutes les femmes qui sont avec moi aujourd'hui sur le plateau. On est en force. Bonjour Michel Phelep.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée d'animation territoriale à la DGALN, et à nos côtés, nous accueillons Delphine Alboui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du bureau de la synthèse et de la coordination des politiques de protection et de restauration des écosystèmes, tout ça,
tout à fait,
à la DGALN. Et à vos côtés, on va saluer Nathalie Berthier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet génie écologique à la DGALN également. Et nous avons avec nous en ligne Delphine Young. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Vous êtes vous chargée de l'animation du Centre de ressources génie écologique à l'Office français de la biodiversité. Et je le disais, avec vous trois, eh bien nous allons parler de l'édition 2022 du prix national du génie écologique. C'est parti pour ce MAG de l'urbanisme.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler de génie écologique et de vivant, de gestion et de restauration de milieux naturels, de projets d'aménagement ou d'équipement. Nous allons voir comment valoriser des projets qui ont permis de rendre compatibles activité humaine et préservation de la biodiversité et d'initier des changements transformateurs. Et on a besoin de cette transformation pour répondre aux enjeux de la crise actuelle de la biodiversité. Il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur le fait qu'on assiste à une grave érosion de la biodiversité et qu'il y a urgence à agir. Face à cette urgence, l'Europe a adopté sa stratégie européenne de la biodiversité. Le ministère de la Transition écologique en matière de biodiversité a pour ambition de protéger et de restaurer les écosystèmes, mais aussi de faire en sorte que la société utilise les ressources et les services de la biodiversité de manière durable et équitable. Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs dans les politiques de préservation et de reconquête des milieux naturels, et notamment sur l'application du zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, sur les enjeux de l'utilisation de la ressource en eau, la promotion de la nature en ville, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, d'adaptation au changement climatique ou encore de développement économique responsable. Le génie écologique s'intègre dans ses nombreuses politiques publiques, il est à leur service, et c'est dans ce contexte que l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique, avec le Centre de ressources dédiées de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, co-organise le 4e prix national du génie écologique pour mettre en avant des bonnes pratiques sur le sujet. Un prix qui bénéficie du soutien financier du ministère de la Transition écologique, qui en est d'ailleurs le partenaire. Et c'est de cela dont nous allons parler cet après-midi. Une première question, puisque mesdames, vous allez dans quelques instants nous présenter le prix national du génie écologique et les outils à disposition. Nathalie, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'on entend d'abord par génie écologique?
Oui, tout à fait. Alors, je vais définir l'ingénierie et le génie écologique en trois points. Donc, le tout premier, c'est qu'est-ce que c'est en définitive? Ce sont des études, des travaux, des pratiques de gestion qui utilisent le vivant, le végétal, l'animal, pour programmer, planifier ou encore aménager et gérer des espaces de nature ordinaire ou remarquable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, son objectif, c'est la préservation et la restauration de la biodiversité, mais aussi l'apport de services, de co-bénéfices pour la société et les hommes que nous sommes, tels que, par exemple, la réduction des inondations. Et ça, c'est quand même un sacré avantage de pouvoir lier les deux. Pour donner un exemple simple, je prendrai la consolidation d'une berge qu'on peut consolider soit avec un talus planté d'arbres ou construire une digue en béton. Voilà. Donc le génie écologique, ça va être la plantation de l'arbre. Et enfin, le troisième point, c'est la manière de l'utiliser. Donc on peut l'utiliser en tant que tel, seul, ou sinon on peut l'utiliser en complément de solutions plus classiques de gestion de l'aménagement.
On voit bien la différence entre les deux, effectivement, c'est quand même pas tout à fait pareil.
En effet.
Si je comprends bien, Delphine Alboui, le génie écologique, c'est en quelque sorte faire avec le vivant pour répondre à nos besoins, à nous humains, mais aussi au bénéfice de l'ensemble du vivant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est important de faire appel à ce génie écologique ?
Oui, ben comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, effectivement, la prise de conscience aujourd'hui est faite. Les scientifiques nous ont alertés depuis longtemps sur les risques et ce déclin de la biodiversité. Notamment, on a quand même envie de rappeler aujourd'hui l'importance du rapport d'évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je vais essayer de reprendre mon souffle. Donc, la plateforme IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui, dans son rapport en 2019, a rappelé les grandes pressions sur la biodiversité, qui sont le changement d'usage des terres et des mers, la surexploitation des ressources, le changement climatique, comme on peut le constater tous les jours, la pollution et la problématique des espèces exotiques envahissantes. Donc, si on rappelle quelques chiffres pour la France, en 8 ans, de 2008 à 2016, par exemple, on peut constater qu'un quart des oiseaux est menacé... a été menacée, pardon. La même dynamique est observée pour les mammifères et les poissons d'eau douce. Et le déclin ne concerne pas que les animaux, mais également les végétaux. On constate aussi que tous les écosystèmes aujourd'hui sont fragmentés, notamment sur la problématique des cours d'eau. Donc les risques augmentent, sont prévisibles ou parfois ne le sont pas. Et la biodiversité est donc victime de tous ces changements globaux. Mais heureusement, la nature peut apporter également des solutions. Donc afin de rendre compatibles les activités humaines et la préservation de la biodiversité, et donc d'initier des changements transformateurs, on a une nouvelle forme de solution qui émerge depuis quelques années, qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Le génie écologique fait donc partie de ces solutions.
Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment rendre compatibles activité humaine et préservation de la biodiversité ? Ça peut paraître un peu contradictoire.
Ça peut paraître contradictoire, mais c'est ce que Delphine vient de dire. Donc la mobilisation du génie écologique est un moyen. En tout cas, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des moyens. Et on observe qu'en fait, depuis 10 ans, il y a une filière du génie écologique qui se structure en France pour cela. En France et dans le monde. Et en définitive, il est, pour répondre à cette conciliation, une part indispensable, un enjeu principal, c'est de travailler sur l'écosystème lui-même pour le rendre davantage résilient. Et parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les écosystèmes apportent de nombreux services à l'homme, et que si on le soigne, eh bien en définitive, il va nous rendre service. Donc le génie écologique, en fait, tout en apportant des bénéfices pour la biodiversité, il va nous apporter des solutions techniques sur des difficultés que la société rencontre spécifiquement. Alors on peut citer la gestion des eaux pluviales urbaines, la dégradation des sols, le ZAN, comme on a dit tout à l'heure, l'atténuation au changement climatique, les questions de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en eau, de réduction des risques naturels, la question de l'érosion du trait de côte. On a des solutions de génie écologique qui permettent de limiter cette érosion, et aussi des sujets de santé humaine. Donc en fait, le développement de cette filière et de projets de génie écologique va permettre de concilier activité humaine et préservation de la biodiversité.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de services rendus par des projets de génie écologique ?
Oui, alors je pense notamment, par exemple, à la question de la végétalisation en ville, qui est une solution de lutte contre les îlots de chaleur urbains. On se rappelle dans les canicules, les augmentations de température de 4 à 8 degrés la nuit en période de canicule en 2015. Et en fait, on a des rapports scientifiques aujourd'hui qui nous montrent que la végétalisation réduit la température. Par exemple, les arbres peuvent diminuer la chaleur de 2 à 3 degrés. Donc ça a cet effet de climatisation, mais aussi l'éco-bénéfice, donc l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de la qualité de l'air et l'accueil de la biodiversité. Donc est-ce qu'il y a des solutions techniques de climatisation qui peuvent apporter ces autres bénéfices ? Moi, je n'en connais pas trop. Ou on a un autre exemple où le génie écologique est plus utilisé avec des solutions classiques d'aménagement. Par exemple, je pense à la restauration de berges via des techniques mixtes qui associent le génie civil des enrangements en pied de berge pour les stabiliser les berges et que les habitations ne s'effondrent pas. Et en haut de berge, utiliser des techniques végétales qui vont permettre de développer la biodiversité.
Et si vous voulez en savoir plus sur ces questions de renaturation des berges, nous allons vous mettre les liens dans les commentaires que vous pourrez suivre pour trouver toutes les informations sur un projet piloté par des chercheurs de l'INRA. On vous met tout ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Delphine, est-ce que des financements sont disponibles pour des projets de ce genre ?
Oui, tout à fait. En fait, on a bien les financements de provenance européenne, notamment avec les fonds structurels, le fonds FEDER, qui est géré aujourd'hui par les régions, mais qui dispose d'une enveloppe à peu près, si on ramène en annualisation, de 150 millions pour la biodiversité, de 50 millions pour l'eau, notamment pour les Outre-mer. Donc ça correspond à l'objectif stratégique « Une Europe plus verte ». Et on a également des instruments financiers tels que les projets LIFE, qui sont une manne financière importante. Et on a également donc les financements nationaux. On l'a vu avec le plan de relance qui a dédié 260 millions, dont 85 millions pour l'Outre-mer, pour des projets uniquement eau et biodiversité. On a également un partenaire très important qui sont les agences de l'eau, qui peuvent financer beaucoup de projets de mesures territoriales en matière de gestion de l'eau et de la biodiversité, notamment dans le cadre de leur 11e programme, ce qui correspond à peu près à 1,7 milliard d'euros par an. Et on a enfin, en termes d'innovation, les appels à projets dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, notamment à travers le concours d'innovation. Donc on peut quand même souligner que depuis 2015, il y a des appels à projets sur la thématique de l'eau et de la biodiversité, ce qui correspond à 71 projets qui ont été retenus, soit plus de 23 millions d'euros avec un effet levier à hauteur de 65 millions d'euros. Donc on a quand même un panel d'investissements qu'on peut mobiliser.
Merci Delphine pour ces précisions qui vont intéresser nos auditeurs. Delphine, Nathalie, on vous écoute et on voit bien que finalement, on peut s'adapter aux changements à venir avec des solutions qui sont basées sur la nature et que le génie écologique est un outil pour y parvenir. Partant de cela, on va donner maintenant la parole à Delphine Young qui est toujours en ligne avec nous. Delphine, est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel contexte est-ce qu'on peut faire appel au génie écologique ?
Et oui, en effet, enfin, le génie écologique peut intervenir dans des contextes très différents et sur des milieux très divers. C'est ça qui en fait aussi tout son intérêt, hein. On peut intervenir sur les milieux urbains, les cours d'eau, ça a été évoqué, les milieux humides, les friches urbaines, hein, les milieux marins et littoraux, les milieux montagnards également. Et ce sont des projets qui peuvent être mis en œuvre dans des contextes très différents, dans un cadre réglementaire, hein, lié à des projets d'aménagement, donc avec une obligation réglementaire, mais ces projets sont également mis en place dans des démarches plus volontaires, donc portées par exemple par des gestionnaires d'espaces naturels, des gestionnaires de cours d'eau ou des collectivités. On a par exemple un exemple assez classique pour des projets portés par des exploitants de carrières, par exemple, qui font souvent appel au génie écologique pour réaménager un site, une carrière après son exploitation en intégrant des enjeux biodiversité. On a aussi également les gestionnaires d'espaces naturels qui peuvent utiliser le génie écologique donc de manière volontaire dans le cadre, par exemple, de projets, de programmes de restauration écologique, de tourbières ou de marais qui ont été dégradés par le passé par des plantations de production. On peut aussi trouver de nombreuses collectivités qui peuvent faire appel au génie écologique, notamment dans les espaces verts urbains, pour intégrer des enjeux de continuité écologique et de biodiversité au cœur des villes. Et enfin, un dernier exemple, les gestionnaires de voiries peuvent également faire appel à ces techniques de génie écologique pour désartificialiser, on en a parlé, et renaturer par exemple des délaissés routiers qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui.
Delphine Alboui, Delphine Jung vient nous parler des collectivités. Pourquoi est-ce que c'est important de les mobiliser et quelle complémentarité elles peuvent apporter avec les solutions classiques ?
Elles sont importantes parce que, en fait, les collectivités, c'est bien l'échelle locale, c'est celle de l'échelle de l'action. Donc la collaboration entre l'État et les collectivités locales est impérative. L'État ne peut rien faire seul pour répondre à ces grands enjeux. Et en sachant que les collectivités donc ont plusieurs moyens d'agir. Tout d'abord, elles sont souvent maîtrises d'ouvrage, ce qui permet de démultiplier les solutions sur les territoires. Elles ont aussi un levier par leur commande publique dans le cadre des marchés. Et par leur choix en termes de stratégie, puisque dans le choix des politiques, c'est-à-dire le choix de dépolluer les sites, de réhabiliter, de restaurer un écosystème, donc autant de possibilités et de moyens d'action à l'échelle locale. Donc le génie écologique intervient à toutes les échelles en raison de la diversité des compétences des collectivités. Donc les collectivités interviennent donc en termes de développement économique sur la mobilité, l'habitat, l'aménagement de l'espace, l'urbanisme et évidemment les compétences sur l'eau et l'assainissement. Donc autant tout ça offre une palette de projets potentiels. Et sans rappeler également que les régions sont chefs de file biodiversité, elles sont également de grands financeurs, elles ont en charge les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles régionales. Les départements également ont un rôle très important en matière de biodiversité puisqu'ils sont en charge des espaces naturels sensibles et sans compter les communes intercommunalités qui gèrent les espaces publics ouverts. Elles sont compétentes en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc dans le cadre de la compétence GEPUM, et elles sont également compétentes sur la GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Mais ce qu'il faut dire aussi également, c'est qu'elles ont un levier donc, de mise en œuvre du génie écologique, mais c'est aussi un formidable amplificateur économique, c'est-à-dire que tous ces projets-là permettent de contribuer à leur développement économique des territoires, puisqu'il y a une mobilisation de nombreux acteurs, donc des bureaux d'études, des entreprises, le monde associatif et des gestionnaires et des scientifiques.
Merci Delphine, on voit bien le rôle des collectivités dans tous ces projets. Delphine Jung, comment trouver une entreprise de génie écologique et puis quels sont les outils à disposition des auditeurs qui voudraient entreprendre ce genre de projet ? Est-ce que vous pouvez également nous parler du centre de ressources ?
Oui, tout à fait. Ben pour commencer pour répondre à votre première question, on a la chance d'avoir pour la filière du génie écologique un annuaire des entreprises de l'ingénierie et du génie écologique, hein, qui est un outil qui est disponible en ligne, accessible en ligne sur le site du centre de ressources qui s'appelle génieécologique.fr. Et donc vous avez un moteur de recherche pour vous permettre de trouver un prestataire, hein, pour vous accompagner dans votre projet de préservation ou de restauration de la biodiversité. C'est un outil gratuit et c'est un outil qui est coordonné, piloté par l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique. Il permet d'identifier des bureaux d'études, des entreprises de conseil, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de formateurs, des entreprises de travaux, bien sûr, ainsi que certains fournisseurs également qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Donc, celui-ci à la fois vous présente les références des entreprises, quelques données sur, bien sûr, leur localisation, leur périmètre d'action, leur zone d'intervention et les projets qu'ils ont menés. Vous pouvez retrouver donc cet annuaire, je vous le disais, sur le site internet du centre de ressources et sur le site internet du centre de ressources génie écologique, donc piloté par l'OFB, vous pouvez retrouver tout un tas d'autres outils à la disposition des collectivités et des entreprises qui souhaitent mener un projet de génie écologique. Ce centre de ressources est un dispositif qu'on appelle multipartenarial qui fait intervenir un grand panel de partenaires, gestionnaires d'espaces naturels, collectivités territoriales, entreprises. C'est un dispositif collaboratif où chacun met à disposition des ressources et qui peuvent bénéficier à l'ensemble des acteurs. Et donc vous pouvez y trouver des guides, des vidéos, des retours d'expérience, également des formations en génie écologique et cet annuaire dont je viens de parler. L'objectif final, c'est de permettre collectivement de monter en compétence sur ce sujet au regard des politiques publiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples, je pense que ça sera mis également sur le chat. Vous pourrez y trouver par exemple des guides ou des vidéos pour vous accompagner dans la préservation de la gestion de la végétation riveraine des cours d'eau, pour les gestionnaires de cours d'eau, qu'on appelle RIPISILVE. Il y a un ensemble d'outils pour vous accompagner sur ce sujet. Et puis, par exemple, vous pouvez aussi consulter des outils pour vous accompagner dans des projets de désartificialisation et de restauration écologique de milieux naturels, avec une journée des vidéos d'une journée d'échange technique qui avait été menée sur ce sujet. Vous trouverez également, donc, comme je vous le disais, des retours d'expérience. Il y en a 70 sur le site internet de projets donc menés sur le terrain. Et ces fiches vous permettront de connaître l'ensemble des détails précis du projet pour vous permettre de vous en inspirer, ou en tout cas pas forcément de le reproduire à l'identique, mais de s'inspirer des techniques qui fonctionnent sur le terrain. Et vous pouvez retrouver tous les retours d'expérience des projets lauréats de chaque édition du prix national du génie écologique, et notamment les retours d'expérience des projets lauréats de l'édition d'il y a 2 ans, donc de l'édition de 2020.
Merci Delphine, et la transition est toute trouvée puisque je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un ancien lauréat. C'était lors de l'édition 2018. Il s'appelle Guillaume Lemoine, il est référent biodiversité et ingénierie écologique à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. C'est l'un des spécialistes en France de la renaturation des fonciers dégradés et il a été lauréat du prix national de génie écologique donc en 2018 dans la catégorie aménagement des espaces publics ou privés. On l'écoute tout de suite et on revient juste après. Bonjour Guillaume Lemoine.
Bonjour.
Je le disais en introduction, vous avez été lauréat du prix national de génie écologique en 2018. C'était dans la catégorie aménagement des espaces publics ou privés. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de ce projet en quelques mots ?
Oui, alors donc je travaille à l'établissement public foncier des Hauts-de-France. Les EPF sont des outils du recyclage urbain, du recyclage foncier. On va chercher, à la demande des collectivités, des quartiers, des usines en déshérence. On déconstruit les superstructures, les usines, les bâtiments. On traite les sources de pollution concentrées et on laisse le temps du projet des espaces, des grands plateaux urbains, des espaces déconstruits en attente d'un réusage. Et qu'est-ce qui se passe sur ces grands espaces? C'est que la nature a horreur du vide, et que les plantes, des plantes invasives, des plantes allergènes, des plantes rudérales, des buddleias, des renouées, voire des plantes protégées, des plantes, des chardons, des orties s'installent sur ces espaces et créent une situation un peu anxiogène pour le promoteur immobilier, créent des gênes pour les quartiers, donnent une image dépréciée de l'espace. Et donc l'EPF a imaginé de faire des verdissements systématiques pour prendre de vitesse les végétations non choisies, en imposant des prairies fleuries pour la biodiversité. Donc voilà, donc le projet a été donc de proposer au prix du génie écologique cette démarche de cicatrisation urbaine et de création de nature temporaire dans l'espace urbain.
Concrètement, quels intérêts avez-vous eu à mobiliser le génie écologique pour ce territoire des Hauts-de-France ?
Alors, le génie écologique, c'est des solutions pour et par le vivant. Et donc, nous avons mobilisé des végétations. Donc, voilà, c'est le choix de graines, le choix de plantes pour pouvoir cicatriser ces anthroposols urbains, donc ces espaces perturbés faits de bricaillons et de concassés de béton. Voilà, donc les plantes, l'intérêt d'utiliser des plantes, c'est que, un, c'est un faible coût, voilà. Deux, c'est réplicable très très facilement, quel que soit l'endroit. Donc on est bien dans des logiques de génie écologique pour lutter contre les îlots de chaleur, parce que chaque fois qu'on couvre ces anthroposols de végétation, on évite que la chaleur solaire s'accumule sur ces déchets de démolition. On empêche l'envol des poussières, on améliore le cadre de vie, on fait de la biodiversité ordinaire, mais tout aussi remarquable, c'est-à-dire des papillons, des abeilles sauvages, des bourdons, des sauterelles et des araignées. On améliore le cadre de vie, on montre qu'il se passe quelque chose sur le quartier, voilà, et on restaure les fonctions du sol. Voilà, en remettant des végétations, on remet un petit peu avec des fabacées de l'azote dans le sol, on restaure la perméabilité du sol, les fonctions du sol.
Ce prix national du génie écologique, est-ce qu'il vous a apporté des choses ?
Alors oui, évidemment, ce prix du génie écologique a apporté la reconnaissance d'un savoir-faire. Vous imaginez que nul n'est prophète en son pays. Déjà, le vent, le promouvoir, le porter, c'est pas forcément toujours très très simple. Donc ça a ramené donc la reconnaissance en interne d'un savoir-faire. Ça a ramené un label de qualité dans l'intervention de l'EPF. Et ça a permis surtout une démarche de taylorisation de l'opération. C'est-à-dire que là, on l'a testé de manière un petit peu expérimentale sur certains sites. Et bon, on s'est dit, banco, on va le systématiser sur tous les sites d'intervention de l'EPF pour développer et diffuser cette bonne idée sur nos chantiers. Les EPF, tous les 5 ans, écrivent un plan pluriannuel d'intervention. C'est écrit maintenant dans notre plan pluriannuel d'intervention. On le présente aux collectivités dans le chaînage, dans le process de l'intervention. Et l'autre avantage du prix, c'est qu'on a réussi à... On en a favorisé la diffusion, le partage, voilà. Chaque fois qu'une idée émerge, si jamais on peut la partager avec les autres EPF de France, si on peut la partager avec les autres acteurs de l'aménagement du territoire, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore la semaine dernière, la métropole européenne de Lyon souhaitait avoir des conseils, la nature des mélanges qu'on utilisait. Voilà. Et donc, ce qui était aussi intéressant, c'est que ce prix nous invite à aller plus loin entre de la cicatrisation des sols urbains par des végétations installées. Maintenant, on développe, je dirais, une démarche encore plus respectueuse de la biodiversité en maintenant les sols en place, en maintenant les végétations pour utiliser ces fonctions écologiques le temps du portage, c'est-à-dire dans le temps entre la déconstruction de l'espace urbain à la reconstruction de l'espace urbain.
Merci Guillaume Lemoine pour toutes ces précisions. Et voilà pour le témoignage de Guillaume Lemoine, ancien lauréat. Et pendant ce temps-là, le chat s'emballe. Ne vous en faites pas, on va répondre à toutes vos questions dans quelques instants. Le temps de donner la parole à Nathalie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce prix national du génie écologique ?
Oui, voilà. Donc ce prix, il est organisé en fait depuis 2014, tous les 2 ans. Et il permet de valoriser des projets de qualité, de montrer que le génie écologique peut répondre aux nombreux enjeux opérationnels que nous avons vus précédemment. Et en fait, il contribue à travers les projets lauréats à partager les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité et à favoriser le développement de cette filière en émergence. Mais bon, Monsieur Lemoine l'a bien redit, vient de bien le dire. Donc ce prix vise à récompenser un travail collectif de l'ensemble des acteurs qui ont porté et réalisé des projets exemplaires. Donc en fait, on récompense le collectif, le maître d'ouvrage, le bureau d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les fournisseurs de matériaux, les associations ou les organismes de recherche. Donc il y a un des acteurs qui candidate pour l'ensemble des partenaires et c'est l'ensemble qui est récompensé collectivement.
Delphine Jung, à qui s'adresse ce concours et comment peut-on y participer ?
Alors c'est très simple, hein, pour y participer, donc l'appel à candidature est ouvert depuis ce jour, depuis aujourd'hui, et donc en fait sur le site internet de l'AIGECO, donc l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique, vous trouverez l'ensemble du dossier de candidature à déposer, hein, qui se matérialise sous forme d'une fiche de candidature et qui pourra être déposée jusqu'au 31 mai 2022. Pour cette quatrième édition, il y a une petite particularité, c'est que les co-organisateurs, dont l'OFB fait partie, hein, ont souhaité montrer que ces techniques de génie écologique s'appliquent aussi très bien au milieu urbain. Et donc, cette année, la structure Plantes et Cités donc, s'associe au prix pour proposer un prix spécial milieu urbain. Et puis peut-être de préciser aussi que cet appel à candidature donc ça s'adresse à tout projet ou opération de génie écologique qui est finalisé à la date de candidature. Il faut que le projet soit mis en œuvre sur le terrain et il faut que celui-ci réponde à l'une des 5 catégories qui a été définie pour ce prix, c'est-à-dire soit la restauration d'écosystèmes ou de populations, soit la gestion des espèces envahissantes, qu'elles soient exotiques ou non exotiques, soit l'amélioration des trames écologiques, dont bien sûr la trame verte et bleue, mais potentiellement d'autres trames écologiques. Il y a également une catégorie sur la réhabilitation des services, donc liés aux écosystèmes et au sol. Et enfin, une dernière catégorie, qui est une nouvelle catégorie, qui concerne les pratiques de gestion des espaces naturels.
Merci Delphine pour toutes ces précisions. Alors on va vous mettre les liens dans le chat. D'abord le lien du site hein, pour trouver toutes les modalités hein, pour déposer votre candidature. Sachez également que les dossiers pourront être déposés à partir du 31 mai 2022. Et si vous voulez des informations, il y a une adresse mail hein, qui va vous permettre de poser toutes vos questions ou de faire vos remarques. On vous met également dans le chat. Alors avant de passer aux questions des auditeurs, je vous signale quand même les prochains événements sur le sujet du génie écologique. Le 10 mars prochain, c'est quasiment demain, le colloque du génie écologique Tour d'horizon des enjeux pour les acteurs du paysage. C'est porté par l'Union nationale des entreprises du paysage en partenariat avec l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique et l'Office français de la biodiversité. Et c'est soutenu par le ministère de la transition écologique. Une semaine plus tard, le 17 mars, un webinaire proposé par l'AST et Idéalco avec l'OFB. Gestion naturelle du risque inondation, pourquoi et comment, le génie écologique au service de la GEMAPI dont on vous a parlé. Et puis 15 et 16 mars 2022, dans la foulée, le forum Life Artisan, le climat change, adaptons-nous avec la nature. Voilà pour les grands rendez-vous hein, qui viendront dans les prochains jours. D'autres travaux sont en cours et nous pourrons vous en parler si vous le souhaitez. Et si nos invités veulent bien revenir dans une prochaine émission, on va maintenant rejoindre Michel et passer aux questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Michel, je le disais, ça s'est emballé pendant l'interview de Guillaume Lemoine. On va donc maintenant pouvoir répondre aux questions.
En effet, Johanna, donc on a quelques questions d'auditeurs. On va prendre une première question d'un auditeur qui nous remercie pour la qualité des intervenants et nous demande sur quels critères seront sélectionnés les projets du prix national.
Alors, qui on répond ? Delphine Young, peut-être ? Vous voulez répondre à cette question ?
Oui, pas de problème. Donc, la qualité des projets sera appréciée par différents critères. Le premier critère, le critère principal, mais vous retrouvez toutes ces informations hein, dans le règlement de l'appel du prix national du génie écologique. Donc, le premier critère, ce sont le fait que le projet soit bien conforme aux principes de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire qu'on soit bien dans ce périmètre de l'ingénierie et du génie écologique. Le volet partenarial, c'est-à-dire le fait de monter des projets multi-acteurs, sera également évalué. Également l'implication citoyenne, enfin le fait d'associer, on va dire le territoire et les gens du territoire au projet, ça c'est quelque chose qui sera pris en compte. Il y a aussi un autre point important dans les critères de sélection des projets, c'est est-ce que le projet a bien fait l'objet d'une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire ce qu'on entend par là, c'est comment l'impact environnemental et énergétique global du projet a été pris en compte hein, dans la phase de conception et d'exploitation et donc a pu être réduit ou raisonné, c'est-à-dire par exemple en faisant appel à des matériaux locaux, hein, que ce soit des matériaux, des végétaux d'origine locale ou d'autres matériaux pour mettre en œuvre le projet ou en faisant appel aussi à des entreprises locales, voire la réflexion sur le transport, par exemple. Et un autre point important qui va être pris en compte, c'est est-ce que le projet a fait l'objet d'un diagnostic hein, préalable ? Bon, ça, c'est assez classique, mais également d'un suivi. Est-ce qu'il y a un suivi qui est mis en place pour évaluer les résultats, on va dire, de la mise en œuvre de ce projet sur la biodiversité ? Et puis enfin, le dernier critère, c'est le caractère un peu reproductif de la démarche, parce que c'est vrai que l'intérêt quand même de ce type de projet, c'est de pouvoir essaimer les bonnes pratiques et donc partager des retours d'expérience qui peuvent être reproduits dans d'autres contextes.
Michel, on a une autre question ?
Une deuxième question, oui, de Thibault, qui nous demande comment nous aider à passer commande et intégrer le génie écologique dans les cahiers des charges.
Qui veut répondre à Alors, ça c'est, Toujours c'est... vous, Delphine, on vous écoute.
Oui, pardon, du coup, j'ai pris
non,
la parole.
Non, mais allez-y.
C'est une question très intéressante. Alors, sur ce point-là, il y a vraiment... il y a déjà des guides hein, qui existent, notamment le guide de recommandation sur les prescriptions techniques sur l'achat de végétaux sauvages d'origine locale. Je pense que le lien vous sera mis également sur le chat hein, pour ce guide-là qui permet d'accompagner les collectivités territoriales dans la rédaction de leur cahier des charges pour l'achat de végétaux d'origine locale. Et il existe également un travail qui est en cours, qui est un travail piloté par l'UNEP, donc l'Union nationale des entreprises du paysage, et l'UPGE, l'Union professionnelle des professionnels du génie écologique, pour travailler sur un guide d'aide à la rédaction des cahiers des charges pour les projets de génie écologique. Donc ça, c'est un grand chantier à venir là pour l'année 2022, mais je pense que ça sera un outil tout à fait intéressant pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets.
Une autre question, Michel ?
Une dernière question d'un auditeur qui nous demande quel est le coût de ces solutions de génie écologique par rapport au génie civil.
Oui, alors cette question du coût est importante. Et en fait, il faut la traiter en coût global, c'est-à-dire en coût d'investissement et en coût d'entretien. Et pour pouvoir comparer, parce qu'en fait, souvent on parle en coût d'investissement et on oublie cette question de l'entretien. Et on a des études, une étude, alors je vais en citer deux, de l'Agence nationale régionale de la biodiversité Île-de-France, qui montre que par exemple, sur un système de noues qui récolte l'eau de pluie à la parcelle, par exemple, ben la gestion va coûter trois fois moins cher de l'entretien de ces noues qu'un réseau pluvial. Donc on est sur des fourchettes de 6 à 11 euros le mètre cube pour une noue contre 37 euros le mètre cube d'eau récoltée sur un système plus classique. Et toujours, alors bon, sur les sujets d'assainissement, une autre étude du GRÉ qui nous a montré qu'en définitive, en coût global, en assainissement traditionnel, on était à 50% supérieur à des ouvrages de solutions vertes et de gestion alternative végétalisée de gestion des eaux. Donc on voit qu'il y a un intérêt en ayant cette approche investissement plus entretien, un intérêt de mobiliser ces solutions vertes.
Merci pour cette dernière réponse, cette dernière explication. Voilà pour cette émission qui était consacrée à l'édition 2022 du Prix National du Génie Écologique. Le temps de remercier nos trois invités qui étaient avec nous aujourd'hui. Delphine Albouy, chef du bureau de la synthèse et de la coordination des politiques de protection et de restauration des écosystèmes à la DGALN. Nathalie Berthier, chargée de projet génie écologique à la DGALN. Et Delphine Young, chargée de l'animation du Centre de ressources génie écologique. écologique à l'Office français de la biodiversité. Un immense merci à toutes les trois et un immense merci aussi à Michel Phelep, chargé d'animation territoriale, qui a répondu à la DGLN, qui a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. Cette émission est désormais disponible en podcast, comme tous les autres numéros du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Alors n'hésitez pas à les réécouter sur notre site, sur nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien à l'écoute de vos territoires.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.